Ça marche, ça marche.
19h30 ici à Paris, l'heure est au débat sur Radio France Internationale.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et l'on vient au chevet de l'Europe ce soir, si bien que l'Europe soit malade. En tout cas, les indicateurs économiques ne sont pas au vert, c'est le moins qu'on puisse dire. Croissance en berne, productivité stagne, importation en hausse. L'Europe ne se suffit pas à elle-même et les défis qui s'annoncent ont de quoi inquiéter. Notre question ce soir, l'Europe décroche-t-elle ? Est-ce qu'elle décroche par rapport à l'allié américain, mais également par rapport à la Chine ? Comment devenir ou redevenir un poids lourd mondial ? L'Europe peut-elle allier compétitivité et protection de son modèle social ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités ce soir à mes côtés en studio, Guillaume Closa, bonsoir.
Bonsoir Romain.
Vous êtes fondateur, président du think tank Europa Nova. Vous avez publié un rapport dont on va parler dans ce débat qui s'intitule Europe 2040. Demain se joue dès aujourd'hui, co-construire une puissance globale, durable et responsable. Fin de citation. Et puis vous êtes l'auteur du livre Fierté européenne. Sébastien Jean, bonsoir.
Bonsoir.
Notre deuxième invité en ligne avec nous ce soir, professeur titulaire de la chaire Jean-Baptiste Say d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, membre du Conseil d'analyse économique. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. D'abord, Guillaume Closa, j'aurais commencé bien par ce qui se trame à partir d'aujourd'hui. On a commencé à voter aux Pays-Bas, on va voter aux quatre coins de l'Europe d'ici dimanche pour ces élections européennes. Qu'est-ce qui se trame derrière ce scrutin, l'extrême droite qui est annoncée gagnante dans de nombreux pays ? Qu'est-ce que ça changerait dans son rapport au monde, une Europe qui serait dirigée majoritairement par les populistes ?
Bon, d'abord, l'Europe ne serait pas dirigée majoritairement par les populistes, parce que ce qu'on voit émerger, c'est quand même une grande coalition qui reconduit la coalition actuelle, regroupant le PPE, les sociaux-démocrates et Renew, c'est-à-dire les libéraux. Cela dit, en effet, on voit monter les populistes un peu partout en Europe. Il y a un paradoxe dans cette montée, c'est que les populistes d'aujourd'hui ne sont pas les populistes d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans. Plus aucun ne demande l'exit de son pays et ils se sont largement européanisés parce que à partir du moment où il y a eu le débat référendaire, il y a eu donc à partir de 2016, il y a eu un retournement de l'opinion publique en faveur de l'Union européenne. Et pour gagner, les populistes ont européanisé leur position. Ils veulent plus sortir de l'Union. Il n'y a plus de Frexit, il n'y a plus de Dexit, il n'y a plus de... on garde l'euro.
Donc ils sont moins dangereux pour l'Union ?
Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins dangereux. Ça veut dire qu'ils ont changé de posture. Ils ont compris que le sujet, c'était de ne plus remettre frontalement l'Union en question, mais ça ne veut pas dire que leur idée n'est pas de la miner. Mmh. Et donc, il y a un danger populiste et il y a une promesse qui est fausse, qui est d'un côté, ben, on reste dans l'Europe, on demande une Europe plus efficace. C'est les premiers à dire que l'Europe est impuissante dans tel domaine, mais qui leur donne les moyens. Qui donne les moyens à l'Union européenne d'être puissante. Donc il y a une très très grande ambiguïté populiste. Ils surfent sur des angoisses qui sont liées à une transformation du monde, transformation géopolitique, transformation technologique, transformation climatique. Et évidemment, des périodes d'angoisse comme celle-là créent des populistes partout dans le monde. Hein. Et paradoxalement, les Européens résistent mieux au populisme que le reste du monde. On voit aux États-Unis que même les démocrates sont devenus populistes. On voit que Modi en Inde fait une campagne de grands populistes, les campagnes en Argentine. Donc il y a moins de populisme en Europe que dans le reste du monde. Et en même temps, inexorablement, le populisme monte partout dans des périodes d'inquiétude. Et les populistes restent extrêmement dangereux parce que leur ADN profond n'a pas changé, même si l'habit semble avoir changé, mais il ne fait pas le moine.
La tendance est mondiale. Sébastien Jean, vous, ça augure de quoi, selon vous, cette montée des populismes ? Alors, évidemment, Guillaume Closa a bien fait de préciser qu'il ne s'agit pas de voir, et ce n'était pas non plus le sens de ma question, les populistes diriger l'Europe, mais en tout cas, on sait très bien qu'il y a cette poussée qui est au niveau national également, et en premier lieu en France, et qui augure de futurs scrutins nationaux. Qu'est-ce que ça dit de l'Europe de demain ?
Je suis tout à fait d'accord pour considérer que c'est en grande partie lié à une époque qui est lourde en termes de changements structurels, qui ne sont pas toujours faciles à gérer pour l'Union. Qui a un certain nombre de paradoxes à souligner, en effet, sur le fait que ces pays se développent, mais en même temps, il y a un attachement à l'Europe qui reste réel. De quoi ça augure? D'un malaise, de difficulté à maintenir le bon fonctionnement des démocraties. Hein, c'est aussi lié à l'évolution des structures d'information et puis à l'évolution d'un monde complexe. Il y a beaucoup de contradictions dans les réponses qui sont proposées par ces partis. Et donc, c'est en partie un malaise, une angoisse et aussi le reflet d'un changement d'époque qui, pour l'Europe, est un vrai défi parce qu'il y a les montées des tensions géopolitiques, parce qu'il y a l'urgence climatique et parce que l'Europe est une construction magnifique à beaucoup d'égards, mais fragile, il faut bien le rappeler.
Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, Sébastien Jean. L'Europe s'appauvrit par rapport aux États-Unis. Ça, c'était le titre d'une tribune de deux économistes publiée fin avril dans Le Monde. Le PIB américain a augmenté de 28% depuis la crise financière de 2008, contre 13% en Europe. Je ne vais pas donner tous les chiffres, il y en a énormément. Et cette question de est-ce que l'Europe décroche est très vaste. Mais que vous inspire la situation européenne aujourd'hui, dans un premier constat global?
Alors, bon, il y a des chiffres qui sont un trompeur, hein, dans le sens où il y a des effets de taux de change qui peuvent donner une impression démesurée de l'écart qui se creuse entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais il reste que, et c'est vrai, la croissance structurellement, depuis en fait même, surtout depuis la crise financière, effectivement, mais même déjà un peu avant, est plus lente en Europe qu'aux États-Unis, et ça doit nous interroger. Ça doit nous interroger d'autant plus que ça se compose justement avec des ruptures aujourd'hui qui sont profondes, qui sont un défi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a pas mal d'éléments différents, mais c'est pas une menace. Enfin, on aura l'occasion d'y revenir, hein, vraiment sur le problème. Je crois en tout cas n'est pas une menace sur le commerce extérieur. Par exemple, l'Europe reste excédentaire dans son commerce extérieur. C'est plutôt vraiment le moteur de la croissance. Il me semble que dans le cas européen, la première chose que manifestement ça traduit, c'est le fait que on a eu beaucoup plus de mal à répondre de façon adaptée, d'un point de vue macroéconomique, à la crise financière,
De
au
2008.
Covid un peu aussi, oui, de 2008. Et d'ailleurs, on est passé par la crise des dettes souveraines en zone euro. C'est au fond une crise de maturation de la zone euro, qui était une création relativement récente à l'époque et qui s'est accompagnée de déséquilibres qui ont révélé les fragilités à ce moment-là.
Ça veut dire
Le résultat.
que l'Union européenne est moins apte à faire face aux crises, c'est puisque vous avez cité 2008, la crise financière, le Covid, que les États-Unis. Et puis on peut élargir aussi à la Chine, parce que ce soir j'ai envie qu'on parle l'Union européenne à deux grands géants.
Jusqu'à présent, effectivement, elle a été moins agile pour réagir à ces crises, notamment en termes macroéconomiques. Et ça, il s'agit d'essayer de s'adapter. Il y a des spécificités structurelle, parce que l'Europe n'est pas un État, donc à chaque fois il faut se coordonner et c'est beaucoup plus difficile. Les États-Unis ont, que ce soit à la crise financière qui pourtant était née chez eux ou pendant la crise du Covid, ont réagi par des politiques macroéconomiques extrêmement vigoureuses, politiques monétaires notamment, mais du coup ils ont rebondi beaucoup plus vite dans les deux cas. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un vrai handicap et il faut effectivement tout faire pour qu'on puisse avoir des politiques macroéconomiques qui réagissent mieux aux crises, et puis j'allais dire aujourd'hui, si on se place dans la situation d'aujourd'hui, qui fassent mieux face aux défis. Et le défi, évidemment, quand je dis ça, je pense à la transition écologique qui est une urgence aujourd'hui.
Guillaume Clossa, est-ce que finalement, pour l'avenir de l'Europe et pour concurrencer, mais est-ce que c'est aussi l'objectif de l'Europe que concurrencer ou d'être au niveau, en tout cas, des États-Unis et de la Chine? C'est aussi une question qu'on peut poser. Mais est-ce qu'il faut revoir ce modèle importation-exportation? Finalement, Sébastien Jean a salué le commerce extérieur de l'Union européenne, mais le déficit, par exemple, commercial avec la Chine, il est de 390 milliards d'euros. Ce sont des chiffres qui datent de 2022, mais les importations ne cessent d'augmenter en 10 ans. Elles s'élevaient en 2023 à 2520 milliards d'euros. Est-ce que l'Union européenne peut se développer à terme sur ce modèle-là?
Mais de toute façon, elle doit se développer sur ce modèle-là parce que Structurellement, les économies européennes sont des économies exportatrices. Ouais. Et donc, on a besoin des marchés mondiaux. On a besoin des marchés mondiaux pour pouvoir avoir des tailles de production qui nous permettent d'être rentables économiquement. Donc ça, c'est extrêmement important. Le sujet, c'est que... je dirais, il y a deux types de sujets. Il y a des sujets macroéconomiques que Sébastien Jean a évoqués. Il y a un problème de croissance à long terme, de potentiel, de capacité à croître sur le long terme, qui dépend de deux facteurs, la démographie, la population active, en gros, et la capacité à innover. Et ces deux facteurs sont en berne. On sait que...
Mais alors, c'est aussi en berne côté Chine, la démographie. Oui, mais, par exemple, la croissance, d'ailleurs, n'est pas au rendez-vous de ce qu'on voit côté États-Unis.
Le modèle chinois pose question sur le moyen long terme.
Il ne faut pas comparer. On ne peut pas comparer l'Union européenne, États-Unis, Chine.
Mais d'abord, d'abord, il y a un vrai sujet, Union européenne, États-Unis, Chine, parce que les Chinois et les Américains ont décidé d'instaurer une compétitivité, enfin une concurrence mondiale entre deux. Et le risque, c'est que de prendre l'Union européenne en étau, et qu'on soit la variable d'ajustement. Et
donc, ou les suiveurs des États-Unis.
La variable d'ajustement, parce qu'on a des intérêts, en vérité, qui sont beaucoup plus larges et très différents des intérêts américains. Et donc, on ne peut pas être les suiveurs des États-Unis. Si on est les suiveurs des États-Unis, on est mort.
Donc on doit rivaliser.
Donc, ça veut dire qu'on est obligé d'être dans une dynamique de concurrence. Et pour ça, il faut que l'Union européenne se transforme et qu'elle se transforme véritablement en puissance, c'est-à-dire qu'elle soit capable de tirer parti de son effet d'échelle, parce que le marché intérieur qui devrait apporter structurellement encore de la croissance, il n'a pas avancé depuis 10 à 15 ans. Et on voit plein de domaines où, en vérité, il n'existe pas. Les domaines numériques, le domaine de la défense, ça émerge, les télécoms, la cybersécurité, etc. Et ce sont les domaines d'avenir.
Ouais. Ça ne circule pas suffisamment au sein de l'Union.
Mais non, c'est trop compliqué. On reste trop dans des dynamiques nationalistes. Et ces dynamiques nationalistes sont en train de nous tuer.
Mais je voudrais juste dire... L'Europe n'est pas un État. C'est ce qu'a dit Sébastien Jean.
Certes, l'Europe n'est pas un État, mais les Européens ont intérêt à survivre. Et donc la question, c'est... est-ce qu'on veut être une colonie ou est-ce qu'on préfère avancer, approfondir la construction européenne de manière rapide. Donc, il faut sortir de cet étau américano-chinois qui arrange et les Américains et les Chinois qui sont en train d'organiser une sorte de partage du monde. Et pour ça, il faut tirer parti de tous nos atouts, mais il faut avoir la volonté aussi d'être une puissance de même niveau pour pouvoir discuter et avec les États-Unis et avec la Chine.
Il y a un manque d'ambition européen ?
Il y a un manque de volonté politique parce que nous n'avons pas les institutions pour avoir cette volonté politique. Et donc, le sujet, on va changer de commission, on va changer de leadership politique européen. Il faut que ce nouveau leadership ait cette ambition. Quand on regarde le vote populiste, une des raisons, c'est de dire, regardez, l'Europe n'est pas capable, elle n'est pas en capacité d'eux, etc. Mais il faut lui donner la capacité. C'est ce qu'attendent les citoyens. Ils veulent une Europe qui agisse. Et après, il faut agir sur toutes les dimensions économiques. La macroéconomie, bien sûr, la gestion des crises. Les crises vont continuer. C'est plus coûteux en Europe que dans... Et donc, il faut tirer des enseignements des dernières crises. On a mieux géré la crise du Covid qu'on avait géré la crise économique et financière.
Ça avait été bien salué, le plan de relance de 750 milliards d'euros.
Le plan de relance a permis d'éviter une crise économique et sociale systémique. Le programme qui a permis de protéger 33 millions. C'est un programme d'aide à la restructuration de lutte contre la transformation du chômage temporaire en chômage structurel. A permis de sauver 33 millions d'emplois en Europe. Le plan de relance a évité qu'il y ait une crise économique et financière. Donc, c'est des avancées. Ce sont des avancées considérables. Maintenant, il faut en tirer les conséquences. Et c'est d'ailleurs pour ça que Mme von der Leyen a demandé à M. Draghi de lui faire des propositions dans cette perspective pour que l'Europe puisse retrouver sa compétitivité. Et Draghi a été très clair. D'ailleurs, c'est en ligne avec le rapport que nous avons rendu à la présidence du Conseil européen. Il faut que les Européens soient en mesure de tirer parti du marché intérieur, il faut qu'ils soient en mesure de tirer parti de l'effet de taille, et il faut qu'ils soient en mesure d'avoir une stratégie qui soit une stratégie géoéconomique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, On le voit bien dans les rapports de force qu'on a et avec la Chine et avec les États-Unis. Les variables qui rentrent en considération ne sont pas seulement des variables économiques, mais la dimension politique, la dimension géopolitique est prégnante. Et donc, il faut que nous ayons les mêmes armes, sinon on va sortir de l'histoire.
On va sortir de l'histoire, le risque pour l'Union européenne. Sébastien Jean, que pensez-vous de cette analyse de Guillaume Clausat qui nous dit finalement que le danger aujourd'hui, c'est que l'Union européenne est prise en étau entre les États-Unis et la Chine et qu'il faut mieux tirer profit du marché intérieur. Comment est-ce qu'on peut y arriver ?
Je suis d'accord avec le constat qu'on a une évolution générale qui est difficile pour l'Union européenne et qui est plutôt contraire à ses intérêts, à la fois parce qu'il y a ces tensions politiques et donc politiquement, c'est plus compliqué de fonctionner avec une sorte de confédération d'États-nations comme on l'est en Europe aujourd'hui que ne peuvent le faire les États-Unis ou la Chine. Là, l'Europe, c'est quand même une construction politique qui s'est faite contre les rapports de puissance sur le traumatisme de la Seconde Guerre, mais pour essayer de les diluer et de fonctionner sur des règles justement pour éviter que les rapports de puissance aient trop d'importance. Et donc aujourd'hui, on est obligé d'essayer de faire une révolution pour malgré tout exister dans ce monde où les rapports de puissance sont prégnants. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Avec une deuxième dimension, c'est que la transition écologique est d'ores et déjà une révolution industrielle et commerciale. C'est beaucoup plus que ça, hein. C'est aussi une révolution industrielle et commerciale. Or, l'Europe a été très dynamique en termes de croissance et même d'innovation depuis des décennies. Mais son point faible, c'est l'innovation de rupture. Ce qu'on sait très bien faire en Europe, là où on excelle, c'est un peu des industries traditionnelles, c'est l'amélioration de l'existant. On est moins bon, en tout cas en comparaison d'autres pays, notamment les Américains, dans ce qu'on appelle l'innovation de rupture, dans des entreprises qui sont vraiment des changements radicaux par rapport à ce qui existe.
Or, vous pensez à quoi? Vous pouvez donner des exemples, Sébastien Jean?
Oui, le plus évident, si vous voulez, c'est la faiblesse relative de l'Europe dans le numérique. Donc on n'a pas de à la fois d'ailleurs dans le hardware et dans le software.
Et puis le chantier de l'IA aussi à venir.
Et donc dans l'intelligence artificielle également, on est assez en retrait. Donc il y a deux types d'explications à ça, hein. Il y en a une qui est directement liée à ce qui vient d'être dit sur le fait que notre marché intérieur, le marché unique dans les services, et souvent il s'agit souvent de services numériques pour une partie de ces innovations, pas tout, mais une partie. La fragmentation du marché intérieur européen dans les services est un handicap. Et puis pour le reste, on n'a pas la même culture de financement du risque qu'aux États-Unis, on n'a pas la même épargne longue non plus, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui pour savoir comment faire en sorte que l'épargne européenne vienne vraiment financer, y compris l'innovation européenne, et n'aille pas autant que ça aux États-Unis. Mais donc, sur l'absence de big tech et puis les positions relativement faibles de l'Europe dans ces secteurs liés au numérique, que ce soit d'ailleurs des services ou du manufacturier, sont assez symptomatiques, je pense.
Juste RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Le jingle est parti trop tôt, on va vous donner la parole Guillaume Clausat, mais je voudrais rappeler pour nos auditeurs le sujet de notre débat ce soir, l'Europe décroche-t-elle ? Guillaume Clausat, fondateur, président du think tank Europa Nova, auteur du rapport Europe 2040, demain se joue dès aujourd'hui co-construire une puissance globale durable et responsable, et Sébastien Jean, que l'on vient d'entendre, professeur titulaire de la chaire Jean-Baptiste C d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, membre du conseil d'analyse économique. Je voudrais qu'on avance sur ce que peut faire maintenant l'Union européenne pour rivaliser. Mais Guillaume Clausat, vous vouliez ajouter ?
Non, mais je voulais rebondir sur ce que disait Sébastien Jean et ce que vous avez dit sur le rapport. Le rapport qu'on a remis au Conseil européen, donc des chefs d'État et de gouvernement, c'est le résultat d'un travail d'une cinquantaine de personnalités de tout le continent. Et il y a un consensus pour dire, maintenant, même si dans le passé, la puissance était un problème en Europe, il faut que l'Union européenne se transforme en puissance. Mais pas une puissance à l'américaine ou à la chinoise, une puissance globale, une puissance durable, c'est-à-dire qui intègre cet ADN
européen,
de transformation climatique qui est très européen, et une puissance responsable qui prenne en compte ses citoyens et son héritage social. Mais c'est aussi une puissance qui doit se réinventer, parce qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau social, la moitié de la dépense mondiale, c'est l'Union européenne, qui ne représente que 6% de la population mondiale. Et donc, si on veut être en mesure d'offrir des services sociaux et les maintenir dans la durée à nos concitoyens, il faut qu'on pense les choses de manière radicalement différente et qu'on tire vraiment parti de l'effet d'échelle. C'est-à-dire que la production des biens publics, la santé, l'éducation, etc., doit se penser sans doute au niveau européen.
Mais comment faire aller de pair, pardon, modèle social, le faire perdurer et compétitivité, encore une fois mais, parce qu'évidemment, le modèle social, il porte bien son nom de modèle
donner,
social en Europe. Ouais, ce n'est pas le cas en Chine ou aux États-Unis.
Je vais vous donner un exemple. La santé.
Ouais.
Bon. Le diagnostic. Le diagnostic, c'est la première pierre de la santé. Le diagnostic, aujourd'hui, c'est les Européens disaient, voilà, on va avoir une stratégie pour améliorer de manière radicale la qualité du diagnostic de tous les citoyens européens. C'est une affaire de quelques milliards. Mais ça changerait tout, parce que ça permettrait de réduire les coûts de diagnostic de manière radicale. Peut-être de les diviser par deux, d'avoir un diagnostic bien meilleur. Mais on tirerait parti de l'échelle de l'Union et on tirait parti des innovations, notamment en matière d'intelligence artificielle, de plateformes, etc., qui existent. Mais ça veut dire penser les choses de manière différente. Mmh. Et ça, c'est pas facile, parce qu'en Europe, on a l'habitude d'ajouter des couches plutôt que de créer des choses from scratch. On l'a fait après-guerre, les Chinois le font aujourd'hui, mais nous, on rajoute des touches qui sont pas très efficaces. L'énorme. Et on est très, très attaché au passé. Mmh. Et donc, c'est pas jouable. En revanche, on peut maintenir un même niveau de qualité de service tout en repensant complètement ces services en tirant parti des innovations. Et ça, les Européens ont intérêt à le faire. C'est le premier élément. Mais d'autres éléments. Une entreprise, une deep tech aujourd'hui, qui est dans un État membre, un des 27, elle n'arrive pas à se penser à l'échelle de l'Union européenne. N'arrivant pas à se penser à l'échelle de l'Union européenne, elle n'est pas valorisée comme une deep tech américaine qui se pense à l'échelle des États-Unis. Ouais. Le marché est beaucoup plus large. Et donc, et il n'y a pas non plus les infrastructures économiques, les services, pour se projeter à l'échelle de l'Union européenne. Les services restent très nationaux. En France, on a BPI, en Grèce, il y a l'équivalent, etc. Mais résultat, on est très morcelé.
Mais il y a tout à voir, finalement. L'Union européenne, elle n'est pas adaptée pour rivaliser avec les États-Unis.
Parce que l'Union européenne est une alliance de vieilles nations.
Ouais.
Et nous n'avions pas prévu que la compétition mondiale deviendrait à ce point difficile. Nous n'avions pas prévu que la Chine progresser de manière aussi rapide. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on dit les Européens ont un atout en matière d'intelligence artificielle. Mais les Chinois sont en train de produire 20 fois plus de mathématiciens que les Européens, et c'est aujourd'hui eux qui produisent deux tiers des innovations, qui déposent deux tiers des brevets signifiants, c'est-à-dire qui ont du sens en mathématiques, à la fois en recherche fondamentale et en recherche appliquée.
On peut dire pareil pour l'environnement.
Et donc, le sujet, c'est que maintenant, il faut accélérer, il faut penser plus grand, et il faut penser plus ambitieux. Mmh. Et il faut remettre en question nos modalités d'action. Autrement, on va être paralysé. Ouais. C'est un vrai sujet. Et moi, ce que je regrette, c'est que ce sujet n'ait absolument pas été évoqué durant les élections européennes. Le président de la République l'a évoqué lors de son discours de la Sorbonne, mais c'est à peu près tout. Mmh. Et donc, cette nécessité d'une transformation radicale de l'Union européenne, Draghi était très clair là-dessus. On est dans une période de radicalisme. On doit changer de manière radicale nos structures, notre manière d'agir, notre manière de mettre en œuvre les choses. Alors, il y a en effet, pour les entreprises, un sujet d'innovation. Ce sujet d'innovation, il a différentes facettes. Il y a une facette qui est que on a de la recherche de grande qualité en Europe, on n'arrive pas à la mettre sur le marché de manière assez rapide. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est développer, le rapport le dit très bien, un continuum depuis la recherche fondamentale jusqu'à la mise sur le marché.
Okay. On va pas rentrer en détail. Moi, je voudrais savoir l'évolution du modèle. Vous dites il y a tout qui a à voir
finalement.
Mais
ça fait partie de l'évolution du modèle.
Mais je voudrais aussi passer la
parole
à Sébastien
Jean. La technologie et la science redeviennent une priorité européenne. Ce n'est pas du tout le cas. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Chine. Ça devient la priorité indienne, ce n'est pas la nôtre. Et donc, on n'est pas sur les bonnes priorités non plus.
On n'est pas sur les bonnes priorités. Sébastien Jean, est-ce que c'est une méthode, entre guillemets, je vais faire un parallèle français, du en même temps qui est à revoir et je vais donner l'exemple de l'environnement où finalement l'Europe, par exemple sur les voitures électriques, veut passer au tout électrique en 2035, mais ne veut pas produire dépendre de l'Asie, qui produit 90% des batteries électriques. L'Europe qui se veut chantre évidemment à la pointe de l'environnement, qui détricote son Green Deal, pendant que finalement la Chine, premier pollueur certes, mais est devenue champion des investissements dans les énergies renouvelables.
Oui, c'est le résultat de la confrontation à la réalité d'une période qui est devenue beaucoup plus tendue politiquement et avec une interdépendance qui reste très forte, mais les rivalités politiques qui s'aiguisent au fur et à mesure. La grande différence, on le voit dans la façon très différente dont on a abordé ce type de transition. Si on compare à la Chine, par exemple, sur les véhicules électriques dont vous parliez, la Chine a abordé cette question avant tout comme une stratégie industrielle. Ça fait 20 ans maintenant, hein, c'est très ancien. Ils l'ont vu comme une stratégie industrielle, comme une opportunité de prendre la main dans un secteur où ils mesuraient l'ampleur de leur retard par rapport aux Européens, qui excellent dans le secteur automobile, en tout cas dans les moteurs à combustion interne. Et là, c'est aussi une façon de souligner que l'Europe peut être à la mesure de tous ses concurrents, parce que dans les véhicules, dans l'automobile en tout cas traditionnel, les Européens ont été les meilleurs. Mais donc voilà, la Chine l'a vu comme une stratégie industrielle. En Europe, on a d'abord fixé un objectif, ouais. En l'occurrence de fin des moteurs thermiques, la vente de voitures moteurs thermiques en 2035, avant de se demander comment on y arriverait.
Ça c'est très européen. C'est très européen de mettre entre guillemets la charrue avant les bœufs.
Oui, en tout cas, ça l'a été dans ce cas-là. Je ne veux pas forcément trop généraliser, mais c'est aussi là encore hein, très difficile de se mettre d'accord sur les bonnes stratégies. Mais toujours est-il qu'on s'est dit on y arrivera, et puis on voit que c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Donc ça nous amène à nous poser un certain nombre de questions, à nous dire ben, on a une ambition très élevée pour la transition climatique, c'est très bien. On ne veut pas le faire pour autant en sacrifiant nos intérêts. Donc je crois que le défi qu'on a devant nous, c'est comment maintenir cette ambition, mais ne pas sacrifier nos intérêts. Et Guillaume Clossade, d'ailleurs, l'a bien dit tout à l'heure, nos intérêts, ils passent aussi par notre ouverture. Hein. L'Europe est ouverte et aujourd'hui, dans un certain nombre de secteurs qui ont des productions sophistiquées, on ne peut être excellent au niveau mondial que dans un contexte ouvert. Donc, il faut arriver à concilier ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ben, on a besoin de raisonner en termes de... pour savoir comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas partir d'une concurrence qui s'est faite sur des bases différentes, en l'occurrence la concurrence des productions chinoises très, très subventionnées. Et donc moi, je crois que c'est logique de se protéger à la mesure de ces subventions pendant un certain nombre d'années. Ça ne veut pas dire se fermer, ça veut dire avoir une protection adaptée. Il restera une concurrence chinoise forte qui sera d'ailleurs un aiguillon et au fond, c'est bien comme ça. C'est aussi comme ça que s'est forgée l'économie européenne.
Pas être plus offensif, c'est ma dernière question parce que le temps tourne, pas être plus offensif justement sur cette question de la protection.
Je ne crois pas que...
comme le font États-Unis ou Chine.
Oui, mais je crois qu'il ne faut pas copier les politiques américaines actuelles qui, à mon avis, sont pas bonnes. C'est-à-dire que mettre un mur de protection comme ça, c'est le meilleur moyen de rester, enfin, de tirer plutôt vers le bas. Et ensuite, on n'en sort pas. On crée un clientélisme, on crée des secteurs qui dépendent du politique. Et donc, ce n'est pas bon du tout en termes de dynamique.
Et les Européens restent la première puissance exportatrice mondiale à valeur ajoutée, pour l'instant. Donc c'est notre intérêt de bâtir dessus.
Donc le modèle social n'est pas à revoir, mais je retiens faciliter le marché intérieur. Il y avait d'ailleurs un rapport de l'ancien président du Conseil italien, Enrico Letta, sur l'avenir du marché intérieur qui avait été lancé. Donc merci beaucoup. L'Europe décroche-t-elle? Oui, mais elle peut se reprendre. Guillaume Clossat, fondateur président du think tank Europa Nova. Sébastien Jean, professeur titulaire de la chaire Jean-Baptiste C d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Merci beaucoup à Florence Ponce à la préparation de ce débat. Claude Battista à sa réalisation. Allez, dans une minute, le journal de 20h, puis le décryptage d'Anne Torpé consacré aux tensions qui pointent entre la France et la Russie. Juste après, ce sera Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et
à
tous.
Et au programme ce soir, un appel à la grève très suivi ce jeudi au Mali.
Absolument, un mouvement pour protester contre l'arrestation du secrétaire général adjoint de l'UNTM, première centrale syndicale du pays, placée sous mandat de dépôt mercredi pour faux et usage de faux. Nous irons aussi au Sénégal où Reporters sans frontières appelle les nouvelles autorités à agir en faveur de la liberté de la presse. En 3 ans, effectivement, le pays a reculé de la 49e à la 94e place au classement mondial de la liberté de la presse. Nous irons également au Tchad où l'organisation Tournons la page dresse un rapport, un bilan accablant des opérations électorales du 6 mai dernier.